Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en direct. Merci à vous les auditeurs. Également nombreux à nous écouter en podcast. Vous pouvez d'ores et déjà aller écouter les débats de ce matin. À 9h30, nous avons évoqué le Paris Saint-Germain et ce nul. 3 partout face au Havre. À 10h, Raphaël Nadal, les dernières informations sur son état de santé. Et puis à 10h30, le VAR, la Suède qui a dit non au VAR. Bref, vous pouvez d'ores et déjà aller réécouter tout ça en podcast, toujours avec Simon Dutin, Marion Bartoli, Julien Beneteau, Cyril Linette ce matin. Paulo Fonseca, Christophe Galtier, Franck Hez, voici les trois noms qui circulent pour prendre la place de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'Olympique de Marseille. L'OM est-il obligé de changer d'entraîneur? Ce sera la seconde des GG dans quelques instants. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien, mais alors absolument rien. Et pourtant, elles vont devoir débattre. C'est la magie de cette émission. Et puis 11h45, les GG contre-attaquent. C'est une première dans cette émission. Il s'est retracté. Il a vu qu'il avait gagné largement et Julien Beneteau a décidé de changer sa contre-attaque car nous avons suffisamment parlé d'arbitrage. Julien, tu voudrais finalement, tu as changé ton fusil d'épaule, tu t'es dit attends, on a déjà parlé du VAR, de l'arbitre hier dans les émissions. Je vais vous proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. C'est Brest qui ne veut absolument pas jouer ailleurs. Ces matchs de Coupe d'Europe, alors que cette semaine l'UEFA lui annonçait que si ça devait être cette semaine, si ça devait être le cas, Brest en Europe, ce serait oui dans son stade, mais que 5000 places. Et ça, Brest n'est pas d'accord. Brest veut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est beau.
Oui, Brest va certainement se qualifier sportivement pour une Coupe d'Europe, peut-être la Ligue des Champions même, on verra. Et elle le doit aussi en grande partie à son stade, au stade Francis Le Blé, à l'ambiance qu'il y a dans ce stade, à l'identité qu'ils ont dans ce stade. Et je comprends tout à fait tous les acteurs du club, présidents, entraîneurs, dirigeants, cette volonté qu'ils ont de pouvoir évoluer au plus haut niveau européen dans leur stade. Et effectivement, ils sont confrontés au règlement de l'UEFA qui va peut-être les obliger entre guillemets à devoir se délocaliser. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est pourquoi ils peuvent jouer en Ligue 1 contre par exemple le PSG ou Marseille avec des grandes affluences en assurant la sécurité et qu'ils ne pourraient pas recevoir la Juxplit en Conference League dans leur stade. C'est ça qui est difficile à
Brest
recevoir.
Veut aller jusqu'au bout, tu veux nous en parler Julien, tu as changé ton fusil d'épaule, bravo mon cher Julien Beneteau. 11h06, sachez que ce sera 11h45, donc vous pouvez aller voter peut-être pour Julien, pour qu'il s'impose une deuxième fois dans une même émission, ça pour le coup ça serait une première. Marek Alter a dit un jour, changer de nom, c'est changer de destin.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous voulez changer, eh bien, vous retombez dans vos vieux travers. Le naturel revient au galop.
C'est la troisième ou quatrième fois que tu me poses la question, quatre ou cinq fois que tu me demandes la même chose.
Et ce qui se passe quand on vit une rechute comme celle-ci, c'est que on s'en veut. On culpabilise.
Marcelino, il est disqualifié pour parler de l'OM. Il est parti comme un peureux au bout de 2 mois, alors qu'il n'a jamais été remis en cause.
Pourquoi je retombe dans ces vieilles habitudes dont je ne veux plus? Et surtout, comment je fais pour me ramener par la manche et me reconcentrer sur le changement que je voulais faire dans ma vie?
C'est vrai qu'on n'avance pas, mais on va continuer à y croire. On va jusqu'au bout lutter.
Vous avez mis en place des nouvelles habitudes et pan, le naturel revient au galop.
Ce que vous écrivez dans les journaux est complètement faux. De la merde, 100% de la merde. Je ne partirai pas, je travaille 12 heures par jour.
100% malakir. Misery. Because I work 12 hours a day.
Ça t'envoie qui s'en fait encore le temps.
Ah, il nous manque, hein, Gennaro Gattuso et ses coups de gueule. Mais c'était pas à l'Olympique de Marseille. C'est une fin de saison indécise et passionnante que s'apprête à jouer l'OM, notamment cette semaine avec la demi-finale aller de la Ligue Europa. En coulisses, l'état-major marseillais s'active pour trouver un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca, Franck Hez, Christophe Galtier, les noms commencent à se multiplier dans la presse. Alors que Jean-Louis Gasset, qui a totalement redressé le club, il faut le dire tout de même, pourrait qualifier l'OM dans quelques jours pour une finale de Coupe d'Europe. La musique qui fout les jetons est cette question. L'OM est-il obligé de changer d'entraîneur? Oui ou non? Cyril Linette.
Non.
Julien Beneteau.
Oui.
Marion Bartoli.
Oui.
Simon Dutin.
Oui.
J'ai trois oui, un non, Cyril Linette, ça ne lui fait pas peur, et tout seul dans son coin. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant dans le sud, c'est Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut les GG, bonjour à tous.
Salut Maxime.
Et c'est vrai qu'il y a un nom qui revient avec insistance depuis quelques jours, c'est celui de Paulo Fonseca.
Exactement, l'OM suit de très près l'entraîneur portugais depuis quasiment deux ans. Paulo Fonseca a même été très proche l'été dernier de succéder à Hugo Tudor, mais Lille l'avait retenu in extremis. Il a été interrogé sur comment il vivait cette nouvelle sollicitation olympienne et écoutez sa réponse.
Tranquillement et totalement concentré sur les derniers quatre matchs. J'ai dit que c'est pas important mon futur maintenant. Le futur de Lille, c'est le plus important et les prochains quatre matchs. Non, je ne décidais pas. Je suis totalement concentré sur le match.
Et je trouve qu'avec les bons résultats de Lille cette saison, la saison précédente également, le beau jeu déployé, bien Fonseca est un entraîneur qui a la cote, qui ne manquera pas de sollicitations cet été, en Angleterre notamment. Mais pendant ce temps, eh bien Jean-Louis Gasset est en poste, et tu le disais JC, il va peut-être amener l'OM en finale de Coupe d'Europe. Mehdi Benassia, le conseiller du président Longoria, avait lui fait le point sur l'avenir de Jean-Louis Gasset.
Quand j'en ai parlé avec le président, je savais très bien, malgré l'échec, si on peut appeler ça l'échec quand même qu'il a vécu à la CAN, que c'était la bonne personne, parce qu'on sait que humainement c'est une personne extraordinaire, et je le disais avant et je le répète aujourd'hui. Comme je dis, c'est plus les hommes qui vont sur le terrain qui peuvent être capables de changer les choses. Quand je vois le travail qu'il fait le coach, je peux vous garantir que même s'il n'est pas à Marseille, il rentrera pas chez lui. On l'a pas évoqué, pour l'instant il a un contrat, comme je vous dis, il a signé pour une période de 3 mois, et pour l'instant on en est là, et on regarde match après match, on verra ce qui va se passer.
Et Jean-Louis Gasset lui aborde tout ça avec sa sérénité habituelle.
Il y a une phrase qui me plaît actuellement, c'est « profiter de l'instant ». J'ai signé 100 jours, on m'a dit « est-ce que tu te sens capable de ?» J'ai dit « ok, je viens, on fait la mission ».
Voilà le discours qu'il tient depuis son arrivée à l'OM. D'autres noms circulent, hein, tu le disais depuis quelques heures, Christophe Galtier, l'ancien Nantais désormais à Porto aussi, hein, Sergio Conceição ou encore le Lensois Francaise qui sera d'ailleurs ce soir au Vélodrome.
Merci beaucoup Maxime Tilliette pour toutes ces précisions. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur rmcsport.fr. L'OM est-il obligé de changer d'entraîneur? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un nom, j'en ai qu'un seul, on va en profiter. Cyril Linette, pourquoi non?
100 jours, c'est en général le délai qu'on donne à un dirigeant, à un manager dans une entreprise pour s'installer, faire la différence. On peut dire que Jean-Louis Gasset a bien occupé ses 100 jours. L'OM a besoin de cohérence et de stabilité. Je ne suis pas en train de dire que Jean-Louis Gasset va rester l'entraîneur de l'OM. Je suis à peu près sûr que ce ne sera pas le cas et je peux comprendre pourquoi. Mais il faut bien réfléchir quand même du côté de l'OM à ce que ça va donner et à quel choix va être fait. Il faut d'abord s'assurer de pouvoir prendre un entraîneur de premier plan et pas un énième pari. Il faut s'assurer de prendre un entraîneur qui soit à peu près en cohérence avec l'effectif actuel, y compris ses faiblesses, pour ne pas repartir dans un turnover de 15 joueurs comme l'OM le fait tous les ans. Et surtout, le plus important, un club c'est une entreprise. Il faut un alignement de l'actionnaire en passant par le président, le directeur général, le directeur sportif et l'entraîneur.
C'est pas le cas en ce moment.
Et c'est pas le cas si on lit la presse. J'ai pas plus d'infos que vous, mais si on lit la presse, il y a quand même des gros soucis. Donc si l'entraîneur est choisi par une partie du club et pas par l'autre partie, et si on ne règle pas de manière claire l'organigramme de l'Olympique de Marseille pour qu'il y ait une équipe de dirigeants alignés qui tiennent compte de l'environnement, qui gèrent les ultras comme on le fait en entreprise. Les ultras, c'est un peu des syndicats, c'est des gens avec lesquels il faut faire avec, mais c'est pas eux qui doivent gérer l'entreprise. Si l'OM ne parvient pas autour de Pablo Longoria à aligner son organigramme, ce sera très difficile, quel que soit le choix de l'entraîneur.
Et dans ces cas-là, pour en tout cas reprendre la première partie de ton intervention, dans ces cas-là, si c'est pour changer, non, oui. Autant rester avec Jean-Louis Gasset.
Même si je pense que c'est ce qui va se passer, ça va changer, mais j'espère pour l'OM que ça changera de manière à ce que tout le monde s'aligne.
Marion Bartoli, l'OM est-il obligé de changer d'entraîneur ?
Pour moi, il faut regarder Jean-Louis Gasset en tant qu'adjoint. Ouais, parce qu'il a une expérience en Ligue 1 qui est énorme. Il a été un excellent adjoint quand on voit la manière dont Ibra parlait de lui, ce qu'il a été capable de faire dans d'autres clubs. Pour moi, c'est un adjoint qui est exceptionnel. Il a en plus ce côté effectivement affectif avec les joueurs. Il a déjà commencé à créer du lien avec ce groupe-là. Pour moi, le plus important à l'OM, au-delà de l'entraîneur, et je pense que dans les trois noms qu'on a cités, il y en a un qui viendra, c'est de travailler sur cet effectif, s'il vous plaît. Je vous en supplie, arrêtez avec cet effectif. C'est en tant que supportrice, c'est plus supportable. Je n'y arrive plus. Donc, il faut absolument que le choix de l'entraîneur soit arrêté assez rapidement et qu'ensuite toute l'équipe de l'OM et toute la direction se mettent à travailler sur le mercato pour faire un effectif qui soit cohérent. L'effectif, il a été incohérent sur le début d'année. C'est comme s'ils n'avaient pas anticipé les problèmes de la CAN et tout ce qui allait en découdre. Et du coup, l'OM fait malheureusement. Alors, j'espère que ça va continuer en Europa League, hein, bien évidemment, mais la position dans le championnat français n'est pas acceptable.
Oui, mais
pour moi, Gassé en tant qu'adjoint, un entraîneur de Ligue 1 qui a la capacité à connaître parfaitement la Ligue 1, et un entraîneur qui a fait déjà ses preuves, et surtout bosser sur l'effectif.
Si on refait le fil de l'entraîneur, il doit choisir son adjoint. Donc déjà, on rentre dans quelque chose d'un peu. Faut trouver un entraîneur qui accepte que ce soit pas l'adjoint avec lequel il travaille habituellement, mais Jean-Louis Gasset. Donc déjà, on rentre dans un truc un peu compliqué. Je comprends le point de vue. L'autre point de vue, c'est OK, bien sûr, il faut changer l'effectif. Mais si c'est pour faire encore 15 départs, 15 arrivées, l'OM ne va pas beaucoup avancer.
Oui, et puis pour
le banc de l'OM n'est pas suffisant pour pouvoir arriver à jouer sur plusieurs compétitions.
Et pour avoir des informations sur Jean-Louis Gasset, il l'a répété, hein, il veut plus redevenir adjoint. Donc après, il faut aussi le convaincre.
L'adjoint, il faut qu'il ait envie d'être adjoint aussi, oui, c'est ça, bien sûr.
Donc ça reste compliqué. Mais c'est vrai que si on reprend le fil de la saison dernière, Paulo Fonseca qui a failli signer à l'Olympique de Marseille, finalement, la signature ne se passe pas, Lille ne le libère pas. Donc l'OM, revient à un plan B qui est Marcelino. Et on sait à quel point ce plan B, a été catastrophique toute la saison et a plombé toute la saison. Ouais. Pourquoi faut changer ?
Parce que je pense qu'il faut, notamment les trois noms qui sont cités là, Fonseca, Aiz et Galtier, pour différentes raisons, je pense qu'ils conviendront à l'OM. De par soit leur expérience, à leur résultat en Ligue 1.
Oui, mais plus que Jean-Louis Gasset. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est juste que si t'as quelqu'un qui... Imaginons que Jean-Louis Gasset arrive en finale de Coupe
Même
d'Europe.
Même s'il gagne la Coupe d'Europe, pour moi, je ne changerai pas mon fusil d'épaule.
Même si l'OM gagne la Coupe d'Europe, Jean-Louis Gasset, tu restes pas?
Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il a été très très bon sur une mission...
Sur un temps court donné.
Ouais, mais après, absolument. Pour repartir sur un nouveau projet et construire quelque chose en étant aligné avec Longoria et Mehdi Benassia, il faut une personne avec plus de stature, avec plus de... comment dire, d'expérience, parce que Jean-Louis Gasset a l'expérience, mais une expérience récente dans le championnat pour aussi attirer certains joueurs. Et ça va être compliqué pour l'OM. D'ailleurs, je crois que c'est Eric Dimeco qui disait à propos de Fonseca, est-ce que Fonseca est déjà pas trop grand pour l'OM si l'OM se qualifie pas pour une Coupe d'Europe, ce qui va certainement être le cas cette année.
Appelons un chat. Donc, un chat, tu veux dire quelqu'un de sexy. Il faut quelqu'un de plus sexy que Jean-Louis Gasset.
C'est pas sexy.
Non. Avec quelqu'un avec la stature,
le caractère.
Je parle
pas de physique non plus, les copains. Vous comprenez le CV. Je pense que Jean-Louis Gasset, dans le milieu du football, a une certaine crédibilité parce qu'en étant adjoint, tout le monde s'accorde à dire que quand il travaillait avec Laurent Blanc,
c'est lui qui était un peu au quotidien l'artisan et c'est lui qui façonnait comment les équipes de Laurent Blanc jouaient. Moi, je pense qu'il faut, oui, il faut quelqu'un qui soit, comment dire, au départ du projet et qui sort d'une expérience avec une réussite pour amener un nouvel élan et un nouveau souffle à l'OM. Et c'est, par contre, c'est, enfin pour moi, c'est déterminant et ça va être le cœur du renouveau de l'OM si jamais il doit y avoir un renouveau.
Simon, ça va pas être facile à vendre médiatiquement tout de même si l'OM, je prends l'exemple, gagne la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, médiatiquement de vendre le fait que Jean-Louis Gasset parte.
Je suis pas d'accord avec ça parce que pour utiliser un poncif de notre profession, Jean-Louis Gasset c'était un pompier. Les pompiers, quand ils viennent éteindre le feu chez toi, tu les invites pas, ils restent pas pour boire le thé ou passer le week-end. Tu te serres la main, merci. Comme disent les Anglais, he got the job done. Il est venu pour sauver l'OM. On se souvient, il sort d'une CAN où il se fait virer. Bon, non, il démissionne à un commun accord avec la fédération ivoirienne. Mais bon,
il y avait une partie qui était plus d'accord que l'autre.
Oui, bon, c'est on oublie très vite quand même que 90% des observateurs t'expliquent, moi y compris, que c'est une très mauvaise idée. Ça aurait pu être un carnage cette histoire, hein, parce qu'il sortait donc d'une expérience plus que mitigée, complètement ratée à la tête de la Côte d'Ivoire. Il est venu, vous rappeliez que dans sa carrière d'adjoint ou dans des clubs un peu moins huppés, il a beaucoup mis l'accent sur le management humain, comme on dit, voilà, plus que le tableau noir, c'est remettre les têtes à l'endroit. Il y a cette anecdote mythique, hein, lorsqu'il était arrivé avec Laurent Blanc au Girondins de Bordeaux, Souleymane Diawara, qui était une des grosses recrues, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Et la légende raconte qu'un jour, il lui dit, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a, mon gars, qu'est-ce qui va pas et tout. Il dit, je sais pas, Diawara lui dit, je sais pas, pourtant je fais tout bien, je me lève, je bouffe bien, j'ai repris ma nutrition, la forme et tout. Il dit, qu'est-ce qui a changé?
Il a dit de sortir.
Il dit, je sors même plus en boîte, je picole plus et tout. Oui, il dit, bon, ouais, tu sais quoi, le week-end prochain, tu vas aller t'en mettre une grosse et tu vas sortir, tu vas reprendre tes habitudes. Et le mec est redevenu un monstre et il a aidé les Girondins. Bon, le management basé sur l'humain, je pense que dans des situations de crise comme c'était le cas à l'OM, ça peut rendre des services. Ça montre en revanche très rapidement des limites, voilà, à moyen terme et à long terme. Et tu ne sais pas, lorsque tu arrives, encore une fois, pour filer la métaphore, tu arrives dans une ville pour quelques jours ou alors pour y passer 3 ans de ta vie, tu n'emmènes pas les mêmes vêtements, tu ne loges pas au même endroit, tu ne te comportes pas de la même façon avec les gens. Je pense que les techniques, la méthode employée par Gasset, elle était bonne pour.
Ok, ça marche parce que c'est court.
Et dès que les problèmes vont arriver, ça peut être catastrophique. Donc je pense qu'il faut se relancer, se serrer la main et donner les clés à un mec qui arrive avec un projet.
Voilà. Sachez que l'entourage de Jean-Louis Gasset laisse filtrer quand même que Jean-Louis Gasset aimerait bien peut-être quelque chose, quoi, une proposition en tout cas.
Ouais, bah, c'est normal, hein. Bah, il a dû prendre goût au truc. Il a vu la ferveur qu'il y a. Ils ont connu des émotions incroyables avec comment ça s'appelle Villarreal, Benfica. On n'en parle même pas. Il sortait d'une expérience difficile en Côte d'Ivoire. Donc forcément, là, il a un second souffle. Là, c'est évident.
Ok. Mais moi, je pense qu'un peu comme le PSG, qui semble-t-il. L'a réglé, semble-t-il. Le sujet de l'OM, il va au-delà de l'entraîneur. C'est un sujet de gouvernance et d'organisation du club. On parle de Christophe Galtier. Christophe Galtier, il est proche du DG. Et ce qu'on comprend, c'est que le DG ne parle
pas. À l'OM, ça a toujours été beaucoup plus compliqué.
Oui, mais c'est pas parce que ça a toujours été beaucoup compliqué qu'il faut que ça le reste.
Cyril continue sur le DG qui est.
Mais ça prend plus de temps à être réglé.
Le DG qui a des soucis avec Pablo Longoria.
Donc, du coup, ça met du plomb dans l'aile à l'option Galtier.
Mais Galtier, voilà. Il est proche du DG. Peut-être que Galtier, c'est une bonne option, mais comme il est proche du DG, Pablo Longoria va pas vouloir le prendre. Enfin, je sais pas tout ce qui se passe, mais globalement, c'est quand même un peu compliqué quand vous avez le numéro 1 et le numéro 2 d'un club qui se parlent pas, ou qui se parlent plus, ou l'un est proche des ultras et cherche à lever les ultras contre le président et autres. Enfin, c'est ce qu'on lit un peu partout. Si c'est vraiment le cas, il semblerait, on peut quand même à peu près faire confiance aux insiders, notamment à RMC et à l'équipe. Vous pouvez mettre tous les entraîneurs que vous voulez, il y a toujours un moment où ça posera un problème. Pourquoi le PSG a enchaîné les entraîneurs avec un certain nombre de désillusions? Ça donne l'impression d'être un peu plus aligné cette année, semble-t-il. C'est ce que l'OM doit faire, aligner son management et choisir effectivement, Gasset ou pas Gasset, un bon entraîneur. C'est très important.
Et une fois que ça s'est fait, aller voir les ultras et leur dire et bien spécifier les rôles. Marseille, il s'est pas détenu à 51% par les socios, etc. À un moment donné, les ultras, ils sont gentils, mais ils sont là pour supporter et les menaces et les compagnies. Et quand ça va pas, il y a qu'à Marseille que ça se passe comme ça. Et s'ils veulent avoir un club qui a des résultats dans la durée, il faut que les ultras, ils apprennent à rester à leur place aussi.
Bien sûr que les joueurs comptent, mais les joueurs sont, même si ça peut paraître paradoxal, ne sont toujours que la composante en bout de chaîne, sur scène, on va dire, de ce qui est l'organisation globale d'un club ou d'une entreprise. C'est pareil partout, c'est les talents, c'est les artistes, c'est les talents d'entreprise, mais les talents d'entreprise, ils doivent être managés de manière cohérente. Et aujourd'hui, ça semble pas être complètement le cas. Mais il n'y a pas qu'à l'OM, hein, bien sûr. Et c'est un peu traditionnel, je suis d'accord.
Dans le foot français.
Dans le foot français, beaucoup, sans doute partout ailleurs. Je suis d'accord avec Marion. À l'OM, ça a toujours été un peu comme ça. Bon, quand il y avait Tapie, voilà, il y avait un patron, c'était assez clair. Là, c'est des pouvoirs un peu délégués, c'est plus compliqué.
Mickaël, au 32-16, nous appelle. Bonjour, Mickaël.
Salut à tous.
Supporter de l'Olympique de Marseille, tu vas devoir répondre à cette question. L'OM est-il obligé de changer d'entraîneur?
Alors, on est obligé. Après, moi, c'est
pas. La ligne est catastrophique, mon cher Mickaël. On va tenter de la rétablir dans quelques instants. Je m'adresse aux Marseillais, là. Pardon de vous présenter comme ça. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi de grands champions. Mais Marion et Julien, sur la sensation, quand vous voyez les noms qui filtrent, là, vous avez envie de qui? Pour vous, qui est le plus à même de réconcilier joueurs, staff, entraîneurs, enfin, vous voyez, président, avec les supporters, c'est quoi le profil idéal, là, Julien?
Moi, j'aurais dit Christophe Galtier. Je trouve qu'il a fait des parcours remarquables à Saint-Etienne avant, Lille. Non, c'est quand même fort d'avoir été champion avec Lille. PSG, bon, il a, c'était pas trop mal. Après, ça dépend effectivement des relations qu'il a avec le directeur sportif.
Ah, c'est QFD.
Ça, c'est compliqué.
Mais plutôt Christophe Galtier. Voilà.
Franquet, ça me va très bien. Et pour être honnête, Fonseca, je suis pas assez spécialiste du jeu de Lille et des matchs de Lille que j'ai pas regardé pour savoir ce que ça donne.
Ok, mais comme ça, l'idée, la première idée, ce serait Christophe Galtier. Marion?
Ben moi, j'aime beaucoup Paulo Fonseca parce que justement, les matchs de Lille, ça joue énormément au ballon. C'est un jeu extrêmement offensif et du coup, je pense que ça pourrait convenir au jeu de l'OM. Et c'est là où j'en reviens encore une fois, toujours sur le recrutement et l'effectif. Mais je pense qu'un Franquès, qu'il a été capable de faire dans la gestion de son effectif, dans la gestion d'une année complète, des résultats, je crois qu'il a les épaules, effectivement, il a quand même pour y arriver. Pour Christophe Galtier, oui, en plus, bien sûr, il a joué aussi. Donc, je trouve que ces trois noms sont très, très cohérents. Après, ouais, c'est plus des affinités ou des affections et surtout des styles de jeu. Mais c'est vrai, moi, j'aime beaucoup le style de jeu de Paulo Fonseca, que je trouve extrêmement offensif, très léché et qui est capable de faire vraiment circuler le ballon.
Pour vous piquer un petit peu, on pourrait se poser la question quand même de savoir si, quand on passe de Lille à Marseille, il y a vraiment une progression.
Alors, pour moi, oui, je vais défendre les Marseillais. Pour moi, oui, quand même. Parce que, bien sûr, Lille, c'est formidable. Bien sûr, Lille va sans doute faire la Ligue des Champions. C'est un très bon club qui est très, très bien dirigé par Olivier Létang. Mais l'OM, pour un entraîneur, c'est incontournable. Là,
mais
c'est pour ça que
mais évidemment. Non, mais de toute façon, je ne pensais pas que ça t'énerverait de toi, Thierry.
T'as un quatrième nom.
Ouais, pour qu'il assoie sa légende.
José.
Non, oh non. Non, à Dortmund, il a été très fort. À Liverpool, il était monstrueux. C'est le club.
Oui, alors oui.
Avec Zidane en adjoint.
Bon, voilà.
Mickaël est de nouveau de retour avec nous. Il a acheté un nouveau téléphone portable.
Il a changé de forfait.
Et il s'est reconnecté. Mickaël, on t'écoute. Dis-nous sur le changement d'entraîneur.
Ben, le changement d'entraîneur, il est important à l'OM, mais c'est surtout la direction qu'il faut faire quelque chose.
Ah.
Parce que les choix de la direction, ne serait-ce que cette année, on va prendre le copain Marcelino et premier coup de Mistral, il s'est envolé. Donc, non, à Marseille, oui, gassé, oui, tout ce qui a été dit par les chroniqueurs, c'est la vérité. C'est un pompier, donc il est venu, il fait très bien le job. Après, pour la saison prochaine, je le verrai, oui, en adjoint d'un Galtier, je vais dire oui. Après, voilà, par contre, c'est surtout au-dessus et au niveau de la gouvernance qu'il va falloir faire quelque chose.
Mais si toi, on t'annonce que Jean-Louis Gasset pourrait rempiler, tu dis OK ou non, tu veux pas?
Alors là, dans l'état actuel, je dis OK. Après, si on va plus loin et que je vois à long terme, non, ça tiendra pas. Et si je pense que si il le prolonge là, au mercato d'hiver, il sortirait.
Ok, donc vaut mieux faire le travail maintenant.
Ouais, okay. Je pense que vaut mieux repartir directement sur de bonnes bases, mais avec un effectif solide et que la valse des entraîneurs et des joueurs arrête un petit peu aussi, parce que ça décrédibilise totalement.
Quatre entraîneurs, c'est vrai que vous avez été gâté cette saison, Cyril Linette.
Je remarque que notre ami supporter dit la même chose que moi. Un sujet de gouvernance, et c'est pas pour viser un tel ou un tel, c'est l'alignement effectivement de la cohérence dans la gouvernance, et puis peut-être éviter le turnover, même s'il faut renforcer comme le dit Marion, éviter le turnover à tout prix pour qu'on reparte à nouveau de zéro à Marseille. On est très aligné là pour le coup.
Bah exactement, mais tu
vois aligné qu'avec les grandes
oui, marseillaises. Oui, mais tu l'as avec auditeurs. Si,
tu as la voix des auditeurs.
Je pense que si l'OM ne gagne pas l'Europa League, je vois pas comment Fonseca viendra, malheureusement. Mais on verra.
Pour aller en Coupe d'Europe, tu veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire que l'OM deviendrait tout d'un coup moins attractif?
Je pense malheureusement. Mais bon, on verra. Hein.
Non,
j'espère qu'on va gagner l'Europa League. Mais
pas forcément. On peut aussi préférer arriver dans un contexte où on sort pas d'un beau succès. C'est parfois un peu plus simple quand on prend un job.
La première manche pour l'Olympique de Marseille, c'est jeudi prochain. C'est à suivre sur RMC à 21h. Marseille-Atalanta-Bergame, demi-finale aller de la Ligue Europa. Évidemment, à suivre sur RMC. S'ouvre à partir de demain une semaine magnifique avec nos deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Les GG ne savent rien. Et pourtant, vous allez voir, elles vont débattre. Et pourquoi pas un peu de castagne s'il y a des positions claires, tranchées. Je vous attends là-dessus. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h29, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité, chers auditeurs. Toujours avec Marion Bartoli ce matin, Cyril Linette, Simon Dutin, Julien Beneteau. Restez bien avec nous dans une dizaine de minutes. Les GG contre-attaque. Nos GG vous ont proposé Quatre débats ce matin. À la dernière place pour l'instant, c'est Simon Dutin, 17% pour le parcours de la flamme olympique. Un peu too much en France, 17%.
Écoutez, si les gens, ça leur va que la flamme grimpe le tapis rouge du Festival de Cannes,
s'ils trouvent
qu'on ne pouvait pas faire sans le tapis rouge du Palais des Festivals à Cannes, mais très bien.
Ah bon, elle passe par là ?
Ah ben bien sûr.
Je savais pas.
Ah, c'était indispensable, voyons.
Ah, Simon.
Ok, 17% pour toi Simon, quatrième en tout cas.
Voilà,
pour
l'instant. Coucou tout le monde, à la semaine prochaine.
Mais voilà. Non, il reste encore quelques minutes pour voter. Troisième place pour les Français râleurs aux Jeux Olympiques pour Marion Bartoli. 21% pour toi Marion. 30%, alors ça, c'est assez inattendu, pour qui regarde la Formule E, je vais le dire en français, la Formule E, la Formule électrique. 30% pour toi Cyril. Finalement, ça intéresse les auditeurs.
Ça intéresse. Et si on vote pour moi, je vous expliquerai pourquoi les voitures électriques, les batteries sont régénérées par un générateur diesel, en fait. Donc la Formule 1, notamment personne regarde. Oui. Non seulement personne regarde, mais en plus c'est quand même un peu fake.
Il a bossé son dossier. Non, mais... Et en plus, il est en campagne pour essayer d'attirer les auditeurs. Bravo Cyril. 32% pour. Il peut changer son sujet à tout moment et il est toujours en tête. 32% pour Brest ne doit pas plier contre l'UEFA et Brest doit jouer dans son stade la Coupe d'Europe la saison prochaine.
Les gens votent pour moi, pas pour le sujet.
Exactement.
Ah oui,
c'est,
mais bien
c'est
sûr.
Dire la crédibilité. Bravo. Et c'est pour ça que tu as fait ton retour dans les grandes gueules du sport. Oui. Julien Beneteau va peut-être s'imposer, mais c'est extrêmement serré. N'hésitez pas à aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Je m'y fais pas. Hein. Le compte X, pardonnez-moi, des grandes gueules du sport. Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Un guet-apens pour les grandes gueules du sport, car elles vont devoir débattre avec le cœur. Trouver vite un argumentaire pour tenter de piéger l'autre. Le guet-apens du jour, écoutez bien, c'est ça.
Grosse première, le retour dedans, ça c'est bien, le retour dedans, ça sort. Richard Gasquet qui sort, Stan Wawrinka, énorme victoire du Français, peut-être la plus belle de sa carrière, 11-9 au 5e set, il est en demi-finale de Wimbledon.
C'est le chiffre de la semaine, 1000. Richard Gasquet a disputé cette semaine à l'occasion du Masters 1000 de Madrid le 1000e match de sa carrière. Une longévité hallucinante, une performance rare. Ils ne sont qu'une quinzaine dans l'histoire à avoir réussi à franchir cette barre symbolique. Écoutez les noms. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl.
Une quinzaine.
Oui Marion, tu interviendras dans quelques instants pour ce débat caché. 1000 matchs pour le Français. C'est 22 ans de carrière sur le circuit professionnel, 16 titres, mais, et c'est l'objet de notre débat, aucun succès majeur. Peut-on devenir une légende du sport sans grand titre ? Oui ou non ? Cyril Linette.
Oui.
Marion Bartoli.
Tout dépend de la définition du mot légende.
Donc c'est plutôt non ?
Ça dépend de la définition que tu veux me donner du mot légende.
Oh, mais tout le monde sait ce que c'est une légende, Marion, voyons.
Légende du tennis français ou du tennis mondial ?
Une légende dans son sport, c'est ça ma question, on peut l'élargir. Est-ce qu'on peut devenir une légende dans son sport sans grand titre ?
Oui.
Oui, ok. Julien Beneteau ?
Oui.
Oui, ok, j'ai deux tennismen qui vont être courageux, je le sens. Simon Dutin ?
Allez, non, juste pour le plaisir.
Non, pour le plaisir, il va trouver des arguments. Tu as 22 secondes, précisément, le temps d'écouter Richard Gasquet, qui lui défend son bilan.
Il n'y en a pas tant que ça qu'on gagnait 16 tournois. Voilà, c'est beaucoup. Après, j'ai 3 finales de Masters 1000 aussi. J'aurais bien aimé en gagner un. Mais bon, j'avais fait 3 sets sur Federer. Après, j'ai dû perdre une fois sur Federer, une fois sur Djokovic. Voilà, c'était pas des finales faciles à gagner. Après, j'ai eu la chance, ouais, de pouvoir gagner 16 tournois. C'est sûr que c'est un beau chiffre et ça fait plaisir.
Un beau chiffre, ça fait plaisir. L'idée n'est pas de dénigrer la carrière évidemment de Richard Gasquet, mais de se demander si on peut devenir une légende dans son sport sans grand titre.
Parlons juste peut-être de Richard Gasquet, après on élargira. Il était promis à disputer la même carrière que Rafael Nadal. Enfin, par
la finale des Pizas, Cyril.
La couverture de Tennis Magazine à 10 ans et autres. Il a eu une très belle carrière, mais il n'a pas eu la carrière qu'on lui promettait. Et pourtant, il s'est accroché. Il a fait une très belle carrière. Il a une très belle longévité. Ça veut dire qu'il a dû surmonter peut-être à l'origine à 20-22 ans la déception de ne pas devenir exactement le joueur qu'il pensait être et ça ne l'a pas empêché de faire une magnifique carrière. Donc pour moi c'est respect en tout cas, grand respect.
Respect évidemment, mais s'il y a 20 ans on nous dit, bon alors Richard Gasquet il va faire 1000 matchs dans sa carrière, vraiment il aura une longévité incroyable mais bon il ne va pas gagner de grands titres, franchement On n'aurait pas acheté ça. On n'aurait pas signé pour ça. Simon Dutin.
Bah, parmi les noms que tu as cités quand même, qui ont disputé plus de 1000 matchs quand même, c'est il est numéro 8 quand même si on devait faire un classement dans ceux qui laisseront une marque dans l'histoire du tennis. Je suis d'accord que aux États-Unis ils ont ça. Tu vois, ils ont cette culture. Tu peux être une légende, un Karl Malone en NBA qui a jamais remporté le titre. On peut le considérer comme
Karl
une légende.
Karl Malone, c'est le troisième meilleur marqueur de l'histoire.
Et voilà, ce que j'allais te dire, c'est que si tu gagnes pas de grands titres, il faut accomplir des choses qui marquent les esprits. Cyril a rappelé quand même qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on attendait, ce qu'on était en droit d'attendre par rapport au potentiel de Richard Gasquet, à sa mise en lumière médiatique et ce qu'il a accompli. Moi, je pose la question sous le contrôle de Julien et Marion. Qu'est-ce qui a manqué à Richard Gasquet qui a peut-être qui avait une des mains les plus magiques, les plus techniques, les plus fantastiques du circuit mondial pendant quelques années? Qu'est-ce qui lui a manqué? De la puissance, de l'endurance, du mental, de la confiance, je ne sais pas. Je pense que Richard Gasquet ne restera pas comme une légende du tennis, ni français ni international.
Français, et si.
Français, une légende, tout dépend où tu circonscris le terme légende, mais parce que c'est un bien grand mot, voilà, un très grand joueur.
On peut débattre, hein, et chacun peut avoir son interprétation, et Marion le disait, du mot légende, mais si on s'accorde à dire une légende du tennis français, il y en a quelques-uns devant lui quand même. Je veux dire Henri Lecomte.
Non, mais c'est une légende du tennis français.
Yannick Noah, ils sont devant.
Mais pour moi, Lecomte, c'est plus une légende que Gasquet, parce que Lecomte, on se souviendra de son épopée à Roland-Garros en finale, on se souviendra de sa victoire en Coupe.
Exactement. On se souviendra pas d'un record. On se souviendra d'une image, de quelque chose. Et t'as raison là-dessus. Ouais. On se souviendra d'une image et de quelque chose. Julien Benneteau.
On met les mousquetaires à part. Aujourd'hui, Richard Gasquet, c'est le cinquième plus grand joueur français de tous les temps. Il y a Noah, Lecomte, Pioline, Tonga. Voilà.
Ouais.
C'est lui le cinquième. Homme, je parle. Voilà. Donc pour moi, c'est une légende du tennis français. On devient une légende par... Je vous rejoins. Si à 10 ans, quand il avait 10 ans, quand il a fait la couverture de Tennis Magazine, malgré lui, il a jamais rien demandé par rapport à ça. Quand il gagne son premier match à Monte Carlo à 15-16 ans, si on se dit à ce moment-là, tiens, si à la fin de sa carrière, il gagne pas un grand chelem, est-ce que ce serait une déception? Peut-être qu'à ce moment-là, il y en a beaucoup qui auraient dit oui. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a évolué à un temps, à une époque, où, et c'est pas une excuse, mais où il y avait Federer, Djokovic, Nadal, Andy Murray aussi à leur sommet. Est-ce que ça n'a pas été facile?
Wawrinka.
Alors les Wawrinka, les Del Potro, les Cilic, ils ont réussi à se frayer un chemin pendant les grands chelems.
Je parle pas forcément de grands chelems.
Mais
Il ne parle pas forcément de grands chelems, vous le savez. Il y a les Masters 1000 quand même aussi.
Ouais, il a dit, il a fait 3 finales, il a perdu contre Federer, contre Djokovic. Bon, 16 titres, c'est pas rien. 1000 matchs. C'est incroyable. C'est 20 ans dessus. C'est 20 ans à 50 matchs par an. C'est monstrueux quand on remet ça. Dans le milieu du tennis, il a le respect des plus grands. Vous demandez à Rafael Nadal de parler de Richard Gasquet, à Tony Nadal de parler de Richard Gasquet. C'est un énorme respect. Il a fait demi-finale à Wimbledon, quart de finale dans les autres tours du Grand Chelem. Il a gagné la Coupe Davis. Il a une médaille aux Jeux Olympiques grâce à un grand partenaire.
Surtout grâce à un grand partenaire, j'allais dire, qui a même gagné pour lui.
Voilà,
c'est vrai.
Quelle carrière.
Non, mais alors Julien, qu'est-ce qui lui a manqué justement?
Alors, je pense qu'il lui a manqué un petit peu d'endurance physique à certains moments et de confiance en lui. Richard Gasquet, malgré tout le talent qu'il a, il est tellement humble, il a cette gentillesse en lui et cette humilité qu'il en perd sa confiance. Et je vais vous raconter une anecdote aux Jeux Olympiques. À la fin du premier set pour le match de la médaille de bronze, il me fait un jeu qui est sur son jeu de service qui est pas terrible. Mais on le sauve. Et au changement de côté, il me fait « Et pitié Binette, et je te promets, je te le jure, je t'en fais plus des jeux comme ça. »
Je suis rôti.
Et je lui dis, et on jouait contre Feliciano Lopez et David Ferrer.
Oui, donc une grosse paire.
Voilà. Dépénible.
Et je lui dis, mais je sais que tu vas plus m'en faire. Et il me regarde, il me fait pourquoi? Je lui dis, Richard, des 4 joueurs là sur le terrain, c'est qui le plus fort, tennistiquement parlant? Et là, il me regarde, je fais, mais c'est toi. Et je lui dis, c'est même pas toi d'un chouïa, c'est toi d'un kilomètre. T'es plus fort que nous tous. Donc, je sais qu'à partir de maintenant, notre moment difficile, il est passé, et que tennistiquement, il n'y aura plus aucun problème. Et je pense qu'il a toujours eu besoin qu'on le réconforte et donc qu'on le rassure. Et peut-être qu'à un moment donné de sa carrière, il n'a pas eu... s'il avait eu, il le dit lui-même, Sébastien Grosjean, Sergi Bruguera, qu'il a travaillé un peu plus tôt dans sa carrière, peut-être qu'il aurait pu avoir justement ce surplus de confiance. C'est dans sa personnalité, c'est dans son éducation. Et ça, ça lui a certainement manqué pour à un moment donné, quand il monte sur le terrain face à un Federer en demi-finale de Wimbledon, en disant attends, allez. En diagonale revers, j'ai rien à t'envier, je vais t'emmener là-dedans, on va voir, on va discuter, on va voir ce qui va se passer. D'essayer d'avoir quelque chose de plus fort là-dessus. Mais autrement, c'est, pour moi, c'est une légende. Vous parlez dans la rue, Richard Gasquet. Souvent, là, les copains du Moscato Show, ils disent, faites le test
des Champs-Élysées.
Ouais. Bah, Richard, sur les Champs-Élysées, il est reconnu, hein. Il est reconnu. Et on dit Richard Gasquet dans le milieu du sport, c'est un nom. C'est un nom.
Ok, tu défends bien ton argumentaire. Et l'idée, évidemment, n'est pas de casser, vous avez bien compris, du sucre sur la carrière de Richard Gasquet. Mais c'est ce qu'on peut devenir une légende dans son sport sans grand titre. Et Marion, ça m'intéresse beaucoup de t'entendre là-dessus, parce que forcément, ta carrière et ton statut n'a rien à voir avec ou sans Wimbledon. Et ça change tout quand même, ça dit tout d'une carrière.
C'est évident. Mais même, je vais te dire une chose, j'aurais perdu deux fois en finale de Wimbledon. Je vais pas dire personne sait qui je suis.
Je pense qu'en France, j'aurais quand même
un petit palmarès.
Non, parce que regarde Henri Lecomte, il a perdu en finale de Roland-Garros et on se souvient
France,
de lui.
Oui, mais je suis d'accord. France, oui, Marion. Mais en fait, la légende mondiale, effectivement, ou en tout cas, si on me connaît un tout petit peu ailleurs qu'en France, c'est effectivement parce que je suis arrivée à remporter ce titre. Mais moi, Richard, j'ai grandi avec lui. On jouait les catégories de jeunes. Et comme il jouait en catégorie surclassée, puisque vous l'avez rappelé, il était extrêmement précoce. Donc, il jouait avec nous dans les catégories plus élevées. Donc, je l'ai vu grandir. On s'entraînait ensemble quand il était avec son papa, Francis. Quand tous les deux, on essayait de réussir. Pour moi, de le voir encore aujourd'hui, être avec son sac, aller sur un terrain à Madrid, jouer contre son ego, faire ce qu'il fait. Quand je vois, moi, l'évolution que j'ai de ma vie, où je me dis, mais que c'est impossible de me voir tous les jours prendre un sac de tennis et prendre une raquette et aller jouer. Rien que pour ça, j'ai un respect immense et absolu pour Richard. Alors après, oui, c'est toujours facile de l'extérieur de dire, ouais, mais il a pas gagné un Master 1000. Ouais, mais bon, on fait d'erreurs. OK, il y en a d'autres qui sont arrivés à le battre. Ouais, mais Djokovic, OK, il a perdu des matchs. Mais allez-y, mais prenez votre raquette, allez jouer contre eux. Faites les efforts tous les jours comme il était capable de le faire. Entraînez-vous autant qu'il s'est entraîné.
Oui, mais c'est une réponse trop facile.
C'est la réalité.
Non, mais j'ai une question. Être sportif de haut niveau, c'est extrêmement compliqué. Forcément, on s'attaque à quelqu'un qui a marqué l'histoire du tennis français, ça,
ce que j'aime pas dans les critiques que reçoit Richard, c'est la critique trop facile de dire ouais, mais entre guillemets, finalement, il avait le tennis et puis il avait pas le mental. Non, parce que c'est pas vrai, c'est faux. Et là où je rejoins complètement Bennett, c'est qu'effectivement, et j'en ai souffert moi aussi, parce que je pense qu'on a à peu près la même personnalité avec Richard, c'est que le manque de confiance en soi, ben c'est difficile. Quand tu te retrouves sur un grand terrain, à des niveaux très élevés, dans les fins de tournoi, et que tu as pour moi, par exemple, Serena Williams en face, ou pour Richard, Roger, Rafa ou Novak, c'est difficile, si tu n'as pas vraiment confiance en soi, de dire qu'aujourd'hui, à cet instant T, c'est toi qui vas remporter le match.
Et
je pense que Richard, ce dont il a le plus souffert, mais malgré tout, oui, bien sûr, ça restera un immense joueur de tennis et oui, bien sûr, une légende du tennis français.
Tu parles de JC, tu parles de palmarès, un grand titre, peut-être pas un grand chelem, mais un Masters 1000 au moins. Est-ce que s'il avait gagné le Masters 1000 de Toronto, ça changerait à tes yeux son image et
c'est
sa
pas
légende.
Forcément mes yeux qui comptent, mais tu vois, par exemple, je trouve que Tsonga, évidemment,
ouais, il a une finale de Grand Chelem.
Oui, finale de Grand Chelem, c'est pas pareil.
Mais oui, mais juste, ça change tout.
C'est pour ça que j'ai mis devant Richard.
Mais bien sûr, mais tu as raison, Bennett.
Et comme Piolle, c'est Rick Piolin qui a le final de Grand Chelem.
La question, vous comprenez, c'est est-ce que sur un chiffre, sur un record, on devient une légende de son sport, c'est ça?
Oui.
Je veux dire, c'est pas parce qu'on.
Lecomte, il a toujours dit un truc. Vilander a changé le cours de sa vie. Imaginons que Vilander perde contre Noah en 83 en finale de Roland et que Lecomte batte Vilander en finale de Roland en 88.
C'est l'inverse.
C'est complètement différent.
C'est Henri qui est devant.
Exactement, ça change tout.
Mais bien sûr.
Okay.
Moi, Sabine Lisicki, je la bénis tous les jours. Je la remercie tous les jours.
On l'embrasse, évidemment, l'Allemande, la finale de Wimbledon.
Légende du tennis français, bon, ça paraît assez clair en écoutant Julien et Marion. Légende du tennis mondial, je ne pense pas. Respect du tennis mondial, je pense qu'on devait résumer. Après, pour aller un peu plus loin sur la question, juste pour finir, juste pour un petit exemple, là on n'est pas au niveau de Richard Gasquet, parlons sur des légendes mondiales. Socrates, en football. Vous savez combien de buts il a marqué en Coupe du Monde? Combien de Coupe du Monde il a gagné déjà? Aucune.
Zéro.
Combien de buts il a marqué en Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde? Deux. C'est-à-dire que Socrates, c'est une légende du football mondial. Son palmarès, Voilà, il a marqué les esprits par bien d'autres choses.
La démocratie corinthienne.
Ouais, le bandeau, l'allure, la classe, le mythe. Voilà, c'est un sportif absolument mythique, et pas qu'au Brésil, et qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, qui n'a même pas spécialement brillé en Coupe du Monde.
Bravo, il a trouvé un contre-exemple. Non, Cyril Linette, juste sur un, débat caché.
Et c'est vrai.
Ouais. Bon, on va se quitter là-dessus, mais je reposerai la question avec d'autres qui ne font pas du tennis. On verra ce qu'ils répondront, les copains.
Sur que tu déposes ça à Christophe Cessieux et à Denis. Ah non, Denis, il l'aime bien, Denis.
Denis, c'est son horloge ensemble au PSG. C'est une copine du Paris Saint-Germain.
Évidemment, on embrasse Denis Charvet.
9h45, j'avance, je retarde un peu. 11h45, on se retrouve dans quelques instants. La fin de cette émission, les GG contre-attaque. Qui s'est imposé entre Cyril Linette et les voitures électriques? Notre ami Julien Benneteau avec Brest qui ne veut pas plier, qui ne veut pas rompre, qui veut combattre l'UEFA. A tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous. On revient dans 55 secondes.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. À partir de midi, les paris RMC, nous vous donnerons les meilleures cotes, notamment autour de la rencontre Marseille-Lens. Il y a beaucoup de matchs de Ligue 1 aujourd'hui et forcément, on va en débattre avec toute la Dream Team des paris. Ce sera à partir de midi. Mais tout de suite, c'est au GG de prendre le pouvoir.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin par les GG. Vous avez pu voter sur le compte X des grandes gueules du sport pour votre débat préféré. La dernière place pour Simon Dutin et le parcours de la flamme olympique jugé too much pour Simon. 15% pour toi, Simon.
Oui, bah écoute, je suis tout seul dans cette aventure, la cuillère de bois, faut bien
le savoir. Non, moi, à mon avis, ça signifie que les auditeurs sont d'accord avec Simon. Non, mais c'est vrai.
Ah, peut-être, merci. Bah, ouais. Merci,
bah, je pense, bah, c'est évident. Voilà, c'est... Et là, maintenant, on veut faire la cérémonie de clôture 2030 sur la mer Méditerranée.
Vive la France. Monde.
C'est une belle façon de manager ses équipes en disant que finalement, tu as convaincu tout le monde. Donc, bravo à toi.
Il n'y a pas de débat, il a raison.
Moi, je verrai quand même que tu es dernier. Et c'est ça que je retiendrai. Troisième place pour Marion Bartoli, également sur les Jeux Olympiques. Les auditeurs ne veulent plus en parler. Les Français râleurs, mais jusqu'à quand?
Maintenant, c'est tout.
19% pour toi, Marion. La médaille de bronze, bravo à toi.
Oui, ça me prend bien.
La deuxième place, et je sais qu'il est extrêmement déçu pour Cyril Linette, 31%. Bah,
franchement, avec mon voiture électrique, c'est pas un peu scooter, c'est auto-tamponneuse, c'est pas si mal.
Tu t'es bien battu.
Non, c'est pas mal.
31%.
Je suis d'accord avec toi, Cyril. Ouais.
Il a gagné, c'est Julien Benneteau pour Brest. Ne doit pas plier contre l'UEFA, il doit aller jusqu'au bout.
Quand même deux victoires dans la même émission.
C'est une première. 35% pour toi. Ouais. Essaye de convaincre l'Assemblée sur Brest et la Coupe d'Europe. Bien sûr.
Non, c'est pour mettre un petit peu en lumière le combat du Stade Brestois en coulisses, alors qu'ils font une saison remarquable sur le terrain avec Éric Roy à leur tête et qui vont se qualifier probablement pour une Coupe d'Europe et peut-être même pour la plus belle des Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, et que c'est tout à fait normal qu'ils pensent avoir le droit de pouvoir évoluer dans leur stade Francis Leblé avec la jauge maximale de 15 000 personnes et pas un tiers de la jauge que l'UEFA veut leur mettre de 5 000 personnes, car eux au niveau billetterie ils perdraient, et puis au niveau ferveur, le supporter, tout le public breton, toute la ville qui s'est mobilisée toute cette année pour amener leur équipe au plus haut niveau. Imaginons qu'ils reçoivent le Real Madrid ou Manchester City de Guardiola l'année prochaine en Ligue des Champions. Ce serait dommage qu'il puisse évoluer uniquement devant 5000 personnes. Alors, ça va être difficile parce que les règles de l'UEFA sont compliquées. Mais ils ont tout à fait raison de se battre, de faire toutes les contre-expertises dont ils ont besoin pour prouver qu'ils sont en capacité d'organiser et de recevoir des grandes équipes de Ligue 1 et des matchs de Ligue 1, entre pas à risque, mais contre des équipes comme le PSG ou autres qui sont en Ligue des Champions, avec une jauge pleine de 15 000 personnes et tout se passe bien, pourquoi ce serait différent en Coupe d'Europe?
Je rappelle, pardonnez-moi avec le micro, je te laisse la main, Marion, que c'est le cahier des charges de l'UEFA qui l'impose, parce que il y a des tribunes dans la persa tubulaires.
Je ne conteste pas le cahier des charges, je veux juste
que Brest aille au bout de la logique.
Voilà, que Brest, ils ont raison, et qu'ils aillent au bout de leur logique, et que peut-être ils soient entendus, qu'ils arrivent à avoir gain de cause, parce que ce serait dommage qu'ils doivent aller jouer à Nantes ou à Rennes ou à, en plus c'est compliqué je pense d'un point de vue logistique pour eux, d'un point de vue financier aussi peut-être, il y a des pertes
ou à Guingamp
qui est un petit peu quand même
l'ennemi.
L'ennemi, on n'imagine pas j'ai pas d'exemple.
Voilà. T'as pas d'exemple? Bah, il y en a eu un. Je crois que Lille avait joué à Lens ou vice versa. À un moment donné, ça s'était passé en Ligue des Champions. Mario.
En fait, le problème que j'ai, c'est que si le Stade de Brest peut assurer à tout le monde qu'effectivement, malgré un poids plus important ou alors un mouvement de foule plus important dans un stade, sur des tribunes qui ne sont pas fixées au sol, donc avec des fonctions qui ont peut-être en tout cas, j'aimais éventuellement un souci là-dessus, qui ne pourront pas supporter justement ce poids supplémentaire. Pour moi, il y a un danger. En revanche, si le Stade de Brest est capable de démontrer qu'effectivement leur structure tubulaire ou échafaudage, vous l'appelez comme vous voulez, est capable de supporter ces 15 220 places et que la sécurité sera totale et assurée, bien sûr qu'ils doivent y aller, qu'ils doivent continuer tout le recours et qu'ils doivent absolument continuer à se battre pour avoir le droit de jouer dans leur stade. Moi, le seul souci que ça me pose, en termes de sécurité, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un problème avec une tribune qui s'effondre et un drame humain. Moi, c'est la seule chose dans ce dossier où j'ai pas la connaissance. Je sais pas si effectivement les tribunes peuvent être assurées de tenir. Mais si elles sont assurées, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Julien, ils doivent jouer.
On peut supposer que les règles de sécurité en Ligue 1 doivent être quand même très fortes, surtout avec ce qui s'est passé à Furiani en 92. Exactement. Donc, on peut imaginer que ces structures-là sont adaptées pour accueillir la jauge maximale d'un stade.
La Ligue 1, ils font partie de la gouvernance de la Ligue 1, Brest, puisque c'est un des clubs professionnels. Donc quelque part, ils sont un peu mandataires ou mandants des responsables. Donc forcément, il y a une dérogation. Ils jouent avec une dérogation en Ligue 1. C'est plus facile d'obtenir une dérogation quand on est entre guillemets patron de l'entité qui la délivre, ce qui est pas du tout le cas de l'UEFA. Des dérogations, l'UEFA n'en donne pas. Elle est extrêmement stricte. Ça arrive à Brest, ça arrive à des tas de clubs européens. Et très sincèrement, je suis d'accord avec Julien. Ils ont raison, même en termes de communication, de dire voilà, on instruit un dossier et tout, mais je pense qu'ils n'ont aucune chance. Qu'ils ne joueront pas à domicile devant 5000 personnes, parce que ce serait une tragédie. Et je pense qu'ils vont devoir, comme d'autres clubs le font et comme plein de clubs en Europe le font toute l'année, ils vont devoir s'expatrier. Je voudrais juste simplement dire un mot. Il faudrait pas que pour Brest, ça alimente un peu plus la petite musique légèrement paranoïaque qu'on entend chez eux actuellement. On est saqué par les arbitres. Parce que je pense que ça les pollue. Et si leurs résultats sont moins bons en ce moment, ça n'y est pas complètement étranger. Il faut pas qu'ils tombent dans une parano. Il faut faire le maximum pour jouer dans son stade. C'est sûr. Si c'est pas possible, faudra s'adapter. D'autres l'ont fait et Brest est capable de le faire, même si c'est vrai que c'est loin. Rennes, Nantes, tout ça, c'est loin pour eux, mais ils seront capables de le faire.
Je rappelle juste une information. C'était il y a quelques jours, l'UEFA qui avait déclaré, qui avait dit à Brest en visitant les installations, si vous voulez jouer chez vous, c'est juste une tribune, celle qui est fixe, celle qui est sur du dur, et c'est donc 5000 personnes. Sinon, vous partez et vous allez jouer ailleurs.
Sachant que c'est 8000 en UEFA, donc 5000 personnes. Si l'UEFA accepte 5000 personnes, elle aussi fait une dérogation, parce que c'est 8000 en Coupe d'Europe.
Okay. Julien, tu voulais reprendre?
Par rapport à ce que vient de dire Cyril, je suis sur la même ligne. Ça prouve une autre chose, c'est les infrastructures et de nos clubs français, de certains des clubs français, qui sont quand même pas à la hauteur d'un club professionnel. Et c'est incroyable qu'on puisse encore avoir des stades en France où il y a des villes et des clubs de Ligue 1 qui jouent dans des stades qui sont pas homologués pour les plus grandes instances.
Mais ce qui est dramatique, ça je suis d'accord avec toi, mais on n'a pas envie de voir Brest, c'est pas la Coupe de France, on n'a pas envie de voir Brest jouer le Real à Rennes.
Si c'est ce qui va se passer et ça permettra à Brest d'avoir 30 000 personnes et une super ambiance et on oubliera que le match à l'URN c'est un peu compliqué pour les supporters. Je suis d'accord, mais vaut mieux jouer dans un stade bien sûr, habitué à la Coupe d'Europe comme le stade de la Route de l'Orient. Ce sera pas des supporters rennais qui seront dans le stade pour siffler les Brestois. Ce sera des supporters brestois. Donc je pense qu'il faut
C'est un faux problème pour toi.
Non, c'est un problème pour les supporters. C'est loin. Mais c'est ce qui va se passer et ça se passera bien pour Brest.
Simon Dutin.
Moi, je pense que pour résumer, c'est un bon problème à avoir pour le Stade Brestois. Si on leur avait dit en début de saison qu'ils seraient en train de se prendre la tête sur ce sujet-là, à ce moment-là de la saison, ils auraient signé immédiatement, qu'ils aient envie de, donc, full support à Brest, hein. J'espère qu'ils réussiront à se qualifier d'abord. Voilà. Pensez à vous qualifier et ensuite, vous réfléchirez à des solutions pour jouer dans le stade qui plaît le plus à vos supporters. J'espère de tout cœur qu'ils vont se qualifier d'une part. Et qu'ils pourront jouer dans leur stade Francis Leblé, si tu me permets, JC. Je suis d'accord avec Laurent d'Andernos, que je me permets d'embrasser, à qui je pense bien fort.
Parfait, très bien. Ce sera pour conclure cette émission. Juste vous dire aussi qu'à 17h05, il y a Rennes-Brest. Hein, là, cet après-midi,
ils peuvent discuter du stade.
Alors, exactement. Sachez d'ailleurs que les autres clubs ont dit non, mais nous, on n'est pas au courant. On n'a pas encore eu de démarche et de demande officielle de la part.
En termes de communication, ils ont un tout intérêt à ne pas le faire. De Brest. À se battre pour leur solution à eux.
Exactement. Brest reste sur 2 défaites consécutives en Ligue 1. Ça fait longtemps qu'on n'était pas habitué à ça. Brest est 3e avec 53 points. Il y a Lille juste derrière avec 52 points. Donc, forcément, ça va batailler jusqu'au bout et Nice un peu plus loin. Avec 48 points. 11h57, c'est la fin des Grandes Gueules du Sport. Merci beaucoup les GG, Cyril Linette, Julien Beneteau, Marion Bartoli, Simon Dutin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouvera samedi prochain à partir de 9h30. Et dans quelques instants, les Paris RMC autour justement de cette 31e journée si palpitante avec notamment Marseille-Lens. Restez bien avec nous. Passez une très belle journée sur RMC. Salut.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.